sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Et aujourd'hui, nous allons introduire un thème particulier, Freud, Reich et la sexualité. Nos rêves sont des choses bizarres. Des éléments épars construisent des scénarios rocambolesques et des aventures invraisemblables. Depuis la nuit des temps, le phénomène des rêves a interrogé notre humanité en favorisant le mythe d'un esprit détachable du corps. Ainsi, pendant le rêve, une partie de nous partirait dans un périple spirituel à la recherche de nos racines les plus profondes. Le récit chamanique repose ainsi sur une expérience vitale qui semble séparer définitivement le corps endormi de l'activité onirique. Bizarrement, cette dichotomie du corps et de l'esprit a très vite légitimé les religions. Pourtant, dans le rêve, notre corps est conservé vivant, et on découvre combien des scénarios fantasmatiques peuvent imprimer sur le corps des stigmates pathologiques. Le corps peut souffrir corporellement, biologiquement, de ses errances psychologiques. Par conséquent, plus qu'une séparation de l'esprit ou du corps, le rêve, la névrose et les fantasmes témoignent de l'union de la souffrance dans le corps. Et c'est bien à ces maladies organiques que Freud va s'intéresser, car le mal-être est tellement puissant qu'il organise même la maladie mentale à l'intérieur du corps. En cette fin de XIXe siècle, la maladie hystérique était à la mode, reflétant la pression des contraintes sociales sur les personnes. Oui, l'hystérie provenait des pressions familiales, mais si le corps la subissait, la malade en ignorait tout. Ne rien avoir de ce qui rendait la vie impossible est bien le propre de la maladie mentale. Mais c'est aussi le propre de toutes les souffrances et de toutes les émotions, comme Nietzsche l'annonce, renouant avec l'analyse dionysiaque de l'Antiquité ou avec la fête des fous du Moyen-Âge. Nietzsche réclame philosophiquement un intérêt pour ce qui est vécu et non pensé. Ces fantasmagories inévitables ouvrent notre imaginaire mais se ferment si souvent sur des rituels compulsifs, voire sur des psychoses majeures, qu'il en est bien difficile. Alors quel est le lien entre l'imagination vivace, l'imagination onirique et la pathologie mentale? Freud insiste. Il faut décentrer l'individu de lui-même à la manière d'une révolution copernicienne, annonce-t-il. L'individu ne tourne plus autour de son conscient, mais vit de son inconscient. Comme la Terre n'est plus le centre de l'univers, la raison n'est plus au centre. Cette raison est noyée de pensées déraisonnables. Même nos actes ne sont plus totalement intentionnels, mais reflètent un combat intérieur que les drames de notre enfance mènent contre notre lucidité. L'imagination se réduit du coup à un simple aménagement du réel pour diminuer la souffrance. Ce n'est pas la découverte de l'inconscient qui fait la force de Freud. D'autres que lui avaient depuis longtemps forcé les portes de l'imaginaire. On savait que les rêves racontent des combats enfantins, remis au goût du jour dans l'agrégat des ennuis quotidiens. Certes, Freud a insisté sur le rôle de l'interprétation des rêves, mais en bon médecin bourgeois, sur l'exigence du soin des maladies mentales aussi. Alors, en analysant la filiation nietzschéenne de Freud, celle qui va déboucher sur Wilhelm Reich, il est possible de concevoir que la recherche scientifique de l'inconscient mène à bien autre chose. Car ici, la sexualité en constitue le cœur, et c'est bien de la libido qu'il sera question. Il existe bien une révolution de l'inconscient. De Freud à Reich, ne reste-t-il que de la philosophie, ou bien la science en est-elle encore partie prenante ? Qu'est-ce que le capitalisme a à voir avec la pulsion de mort ? Et qu'est-ce que la biologie nous dit de la libido, de l'énergie sexuelle ? Eh bien, nous allons voir que le parcours de Freud à Reich est fait de cassures, de glissements sémantiques. Mais comme tout cela concerne toujours le corps, voilà une question gourmande à notre menu de Science en Liberté d'aujourd'hui.
Madame Rose est toute chose quand on la reluque. Madame Rose est nippée dans du chien blanc. Qu'elle est boyau à l'air, tarin sur le derrière. Oh, pitance! Madame Blanc est bien vivante dans son armure. Madame Blanc n'en a pas l'air, mais elle est blanche, elle. Dans son manteau en fer et ses seins de travers. Oh, pitance!
J'ai appris hier.
Faut croire que je retarde.
Ou peut-être
n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes entre évier et latrine, à l'heure de la mise au bâclé des repas.
Madame n'a plus l'air d'avoir le temps de voir s'il fait rose ou blanc. Il crachote du sang sur nos gamelles. Oh, pitance!
Les Tétraides interprétaient Pitance. L'émission de ce lundi va traiter de Charcot à Freud, histoire de l'inconscient et les découvertes de Reich. Bonjour, aujourd'hui dans notre nouvelle émission de Science en Liberté sur 89.4 Radio Libertaire, nous allons surfer sur une énigme. Alors que le corps et l'esprit ont été construits comme deux entités séparées, en quoi la science montre que l'un ne peut pas se penser sans l'autre ? On sait que le rêve a été utilisé pour faire de la divination. Mais le rêve a-t-il été conçu comme une expression délirante sans importance ?
Bonjour Fiona. Alors le rêve est une manifestation complexe. Et les humains ont toujours suspecté que l'expression onirique avait un lien avec leur histoire. Par exemple, dans la tradition des aborigènes d'Australie, le temps de rêve est la mémoire de leur passé. On sait que le rêve reflète l'histoire de la personne, et même plus, car en utilisant des repères sociaux, des archétypes, comme les a nommés Carl Gustav Jung, le rêveur va parler de son monde, mais il parle aussi de son ethnie et des pensées dominantes de sa civilisation. Du coup, le rêve donne une sorte de sentiment de langage universel.
D'où les idées magiques de rêves prémonitoires.
Eh oui, on va attribuer aux rêves beaucoup plus que ce qu'ils ne sont, en leur donnant à la fois une valeur magique et sociétale. Alors, il y a une très très longue tradition de dichotomie entre l'esprit et le corps, de séparation entre l'esprit et le corps. La séparation de l'âme, notamment, a été l'un des mythes les plus fondateurs des religions. Et on n'en compte pas les bêtises idéologiques qui ont été fondées sur cette hypothèse. Car en fait, depuis longtemps, cette hypothèse a traversé l'esprit humain. Et même les chamans ont pensé que l'imagination reflétait l'histoire des personnes. Mais ils savaient que cette histoire avait une base organique. Mais le rêve apparaît quand même un peu comme une sorte de divorce passager entre l'âme et le corps. Et c'est cette expérience commune qui a tellement troublé les humains et dans lequel évidemment se sont engouffrées ensuite les religions.
Oui, mais on est bien d'accord que la vie consciente est influencée par une vie inconsciente. Et il semble que Freud ait été l'un des premiers à faire surgir le corps dans l'esprit. Que peut-on en dire, Thierry?
Eh bien, non, je te remercie. En fait, c'est en se débarrassant du fatras judéo-chrétien que c'est Nietzsche qui va comprendre l'intérêt d'imaginaire. C'est ce qu'il a appelé le dionysiaque en l'homme. C'est donc Nietzsche qui va être l'un des fondateurs au XIXe siècle de la conception du corps et de l'esprit l'un dans l'autre. Il fustige d'ailleurs la culpabilité qu'on trouve dans nos fantasmes, culpabilité chrétienne, hein, c'est comme ça que Nietzsche l'appelle, pour faire sortir le pouvoir de notre imagination. Ça veut dire que Nietzsche conçoit déjà l'inconscient comme une force, comme une énergie. Le problème, c'est qu'il ne va pas donner de nom à cette énergie. N'empêche qu'à travers tous les échanges qu'ils vont avoir avec Paul Deray, il va aussi s'interroger sur la dynamique des rêves et sur leur énergie.
Si je ne m'abuse, Paul Deray, c'est celui qui vivait avec Nietzsche et Lou Andreas Salomé, et ils formaient un fameux trio amoureux.
Oui, une sorte de couple à la française, comme on disait à l'époque. C'est en cela que tout ça s'est fort, parce que c'est précisément à travers cette expérience amoureuse incroyable, une expérience amoureuse à trois, qui va exploser le couple hétéronormé tel qu'on le connaissait au XIXe siècle, que vont justement être posés les fondements du fantasme. Nietzsche et Paul Deray vont parler d'une énergie vitale, mais sans jamais réussir à tout à fait la trouver ni la nommer, et sans comprendre qu'il s'agissait de la sexualité. Pourtant, ils ont été capables, l'un et l'autre, de décrire le sexuel comme une énergie, dans une époque où l'acte amoureux est en général considéré comme quelque chose de bestial.
Oui, je me souviens de pudibonderie de la reine Victoria, qui disait aux jeunes mariés, pour le soir de leurs noces, « Mesdames, quand cette nuit horrible arrivera, fermez les yeux et dites-vous que c'est pour l'Angleterre. » On voit que la sexualité n'avait pas bonne presse chez les bourgeois.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La sexualité était considérée comme une horreur. Pourtant, c'est en constatant le lien avec la frustration sexuelle et avec les nombreuses maladies mentales que les choses vont changer. En effet, Charcot, psychiatre à la Salpêtrière, va réussir à faire ce lien. Il va même flirter avec l'insensé quand il va hypnotiser des malades hystériques. Le médecin va découvrir que la malade se calme sous l'hypnose. Alors évidemment, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais il comprend aussi que le délire est fondé sur des problèmes, sur des bases sexuelles.
On sait que Freud a assisté au cours de Charcot à la Salpêtrière. C'est en s'intéressant aux malades mentaux qu'il va découvrir l'inconscient ?
Alors non, Charcot va pas vraiment découvrir l'inconscient, mais en utilisant l'hypnose, il va découvrir cette force paradoxale. Et Freud va aller plus loin. Avec l'hypnose, ça va donner accès à des pensées coupables déguisées, mais ça va aussi déchaîner une sexualité absolument incontrôlable. Et c'est ça le trait de génie de Freud, de constater le lien entre l'énergie sexuelle et la vigueur de la maladie. En fait, il y a d'autres personnes qui, à la même époque, sont en train d'y penser. Par exemple, Breuer. Mais Freud n'est pas si seul dans ses échanges de courriers et il va faire émerger que c'est bien une énergie qui détermine le symptôme et la représentation du symptôme. Évidemment, ces discussions qu'il va faire vont lui permettre de construire tout ce qu'on connaît sous le nom de psychanalyse. Mais Freud va aller beaucoup plus loin que la simple découverte de l'énergie sexuelle. Il va comprendre que l'activité onirique, le rêve, reflète directement cette même énergie et sa frustration, et il comprend évidemment très très vite que cette énergie est d'abord et fondamentalement sexuelle.
Freud n'a pas découvert l'inconscient, mais donné un nom à son énergie en insistant sur le fait que c'était une énergie sexuelle.
Tout à fait, Siona. Il n'y a pas de découverte de l'inconscient. Il était déjà connu depuis très longtemps, en quelque sorte. Mais la grande contribution de Freud est précisément là. En même temps que nos pulsions sexuelles ne soient pas parfaitement lucides et qu'une partie de notre vie ne soit pas intentionnelle, n'est pas franchement nouveau. Mais Freud a décrit tout cela à la manière d'un entomologiste étudiant les comportements des insectes. Alors Sigmund Freud, je vous le rappelle, il est né en 1856, il est mort en 1939, et c'est un jeune médecin qui s'est intéressé aux désordres psychiatriques. Pourtant, c'est plus tard qu'il va vraiment passer de l'étude des rêves, de l'étude des maux d'esprit et des manifestations pathologiques, à la découverte que c'est une même force énergétique qui fabrique l'histoire des personnes. En ce début de XXe siècle, il est aidé par l'évolution des mœurs. En effet, le carcan victorien que tu as décrit tout à l'heure et qui enchâssait l'organique dans un puritanisme sexuel va exploser. Depuis la poésie jusqu'à la vie sociale, on trouve de partout des auteurs qui posent la question d'une sexualité plus libre et les idées libertaires sur la liberté sexuelle et l'amour libre ont aussi fait leur chemin dans les esprits. Bref, la morale chrétienne continue de s'imposer, mais ce patriarcat n'est plus tout à fait tabou. Et donc, maintenant, à la suite de Nietzsche, des scientifiques, des sociologues, des ethnologues vont révéler que la sexualité ne se confond pas avec la reproduction et qu'il y a une énergie qui découle de l'organique. Du coup, les mœurs des autres peuples peuvent aussi être comprises comme des variations sociétales et non pas comme des agressions contre la religion.
Oui, mais il faut être quand même un peu athée pour oser étudier la sexualité et dire que la maladie mentale se rapporte à la sexualité.
Ah oui, alors là, ça c'est très très clair que à partir de Nietzsche et de la mort de Dieu, ça permet d'ouvrir des portes, mais qu'il faut attendre évidemment des penseurs libertaires, des penseurs athées, pour que les choses puissent se faire. En fait, l'athéisme de Freud a vraiment dû aider à la description des mécanismes inconscients, même s'il avait lui-même un long passif religieux. Enfin, débarrassé de Dieu, les expressions inconscientes vont perdre leur sens magique pour pouvoir trouver une signification. Et cette signification, Freud va la découvrir d'abord dans la souffrance, mais il va vite comprendre que c'est exactement la même chose que celle qu'on trouve dans l'imagination. Enfin, Freud a d'abord cherché à dissimuler cette première approche, car évidemment, le fait de travailler sur la sexualité au début du XXe siècle, ça va garder un aspect non scientifique qui n'était pas tout à fait favorable à l'idée d'être un bon médecin, quoi.
Oui, la science s'occupait de la reproduction et de la gestation, pas du sexe.
Tout à fait. Il y a eu énormément de textes qui ont été faits sur la reproduction, de travaux qui ont été menés sur la relation entre la sexualité et la reproduction. Mais à l'époque, la sexualité passait même plutôt comme pour être une sorte de frein à la reproduction. On se rappelle bien sûr des délires sur la masturbation au XIXe siècle ou des délires sur l'homosexualité. Eh bien, cette science qui s'intéressait d'abord à la reproduction, il a fallu casser cette idée-là. Et la sexualité était surtout vue comme une bestialité. Quand on faisait du sexe, c'était qu'on était comme des bêtes. Il reste d'ailleurs en français toujours cette sorte d'expression « Ah oui, mais on n'est pas des bêtes », etc.
Alors
que dans la réalité, évidemment, la reproduction et la sexualité sont bien deux choses séparées, y compris chez les animaux. Il n'y a pas du tout de forte différence entre l'humain et les animaux. Bien au contraire, l'humain est probablement même celui qui pratique le plus le sexe. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne suffit pas de reconnaître la sexualité. Il fallait aussi, et c'est là la grande force de Freud, il fallait bien reconnaître la force énergétique de cette sexualité. Alors, Freud va prendre du temps pour faire ça. Il va d'abord commencer par décrire l'inconscient comme une organisation de type architectural. On appelle ça une topique. Il y a au centre de la personne un bouillonnement des désirs ou de ce qu'il appelle les besoins inconscients. Alors ça, il va le nommer le « ça ». C'est une sorte de bouillonnement, une sorte d'ensemble qui n'est pas forcément facile à comprendre. Pour lui, c'est quelque chose de complexe qui ne se met pas en mots. Autour de cet orage émotionnel permanent va se glisser petit à petit en surface ce que Freud va appeler le « moi ». Le « moi », c'est en quelque sorte construit comme une lucidité sur le réel. Généralement, cette lucidité sur le réel permet en quelque sorte de passer du bouillonnement du besoin et du désir à quelque chose qui va dire « bon, ben, j'ai besoin de ça, je désire une pomme, je vais aller la chercher ».
Une voie plus raisonnable.
C'est en quelque sorte l'action de la réalité sur ce bouillonnement émotionnel. Mais ça va aussi faire passer des mécanismes de défense. Il va y avoir un intermédiaire à cette médiation sur la réalité. Ce moi va faire passer des mécanismes qui vont permettre de défendre les pulsions. C'est ici que va intervenir le refoulement, et on va en reparler bien entendu. Enfin, pour Freud, il y a une couche supplémentaire qu'il appelle le surmoi, qui est une couche épaisse, composée de l'intériorisation des interdits sociaux et familiaux. Ce surmoi va en quelque sorte empaqueter toute l'énergie sexuelle pour la rendre présentable. Et du coup, la conscience est réduite à ce que l'on croit faire de notre propre énergie.
Le ciel s'électrisait, Electric Sky, interprété par Crucified Barbara. Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie, dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, Science en Liberté. Nous venons de voir que Freud n'a pas découvert l'inconscient, mais il a décrit la structure de l'inconscient et insisté sur le fait qu'il y avait une énergie sexuelle.
Oui, c'est ça, la vraie grande contribution de Freud. Alors effectivement, comme tu viens de lire, il n'a pas découvert l'inconscient, mais il a décrit la manière dont s'organisait l'inconscient, ce qu'il a appelé les topiques de l'inconscient. Alors au départ, il a fait donc cette structure en trois instances. Le « ça », qui est le bouillonnement émotionnel, le « moi », qui est la force de la réalité, et le « surmoi », qui est l'intériorisation de tous les interdits.
Le « moi » raisonnable, le « surmoi » moral, et le « ça ». Mais alors, ce « ça » indiscipliné vient d'où ? De quoi est-il exactement constitué ?
Alors, c'est évidemment difficile à bien décrire. Freud en a fait une sorte de bouillonnement de pulsions vitales. Mais très vite, il va comprendre que l'énergie qui dévore l'humain n'est pas simplement un élément vital transféré dans le besoin de boire ou de manger. Et ça se transfigure dans les rêves, ça déborde dans les symptômes. Et ce qui se transfigure dans les rêves et déborde dans les symptômes, eh bien, c'est tout simplement la sexualité. Voilà pourquoi cette topique descriptive, architecturale de l'inconscient va m'en rendre très très mal compte de l'énergie qui le travaille. Et comme cette énergie n'est pas présente, évidemment, ce descriptif qui est bien présentable, qui permet de catégoriser les pulsions primitives, les désirs inconscients et les désirs sociaux, ce descriptif présentable va quand même bien passer à l'époque de la description de Freud. Cette architecture va même être décrite comme une sorte de pyramide. Et Freud dira qu'on ne peut percer à jour cet inconscient qu'à travers quelques fuites, comme les maux d'esprit ou les symptômes névrotiques. Donc ça va rester pour l'instant confiné en quelque sorte aux insensés, aux malades mentaux. Il va falloir attendre le concept de libido qui va masquer sous son nom le fait que Freud a bien découvert qu'il s'agissait d'une énergie sexuelle.
Mais Freud sera pourtant très attaqué car il voit de la sexualité partout. Pour les gens de son temps, la sexualité dont parle Freud est beaucoup trop large et certains vont pourtant le présenter comme un obsédé.
Alors au début, ce n'est pas le cas. Au début, dans l'aspect topique qu'il va décrire, il reste médecin raisonnable. D'autant qu'il ne s'intéresse a priori qu'à des gens qui sont malades mentaux et principalement les femmes hystériques. Mais peu à peu, Freud va être obligé pour essayer d'avancer dans cette compréhension et à travers l'abandon d'hypnose aussi dont il va comprendre très vite qu'elle dépasse ses capacités de gérer les émotions des individus, il va très vite décrire l'aspect érotique de tous les actes inconscients parce qu'il est bien obligé de les reconnaître. À la base de toute la vie des individus, il y a cette énergie sexuelle qui déborde et qui sera plus ou moins bien canalisée au cours de toute l'histoire familiale. La famille est le lieu où le sexe va être contraint, réduit au silence. Alors c'est pour ça que Freud va commencer par dire « l'enfant est un pervers polymorphe ». Car en partant d'un désir brut qui va bouillonner au sein de lui-même, avant que la sexualité se mette en place, avant que la sexualité génitale se mette en place, Freud va bien découvrir qu'il y a là une énergie sexuelle qui va prendre toutes sortes de formes pathologiques ou d'expressions présentables. Alors des expressions présentables quand on est un peu plus jeune, au moment où on va mettre en place sa sexualité, ça va être le flirt, mais aussi des expressions culturelles comme la musique, l'art. Et puis, bien entendu, tous ceux qui réussiront pas à gérer ce bouillonnement d'émotions, ça va devenir des expressions pathologiques, comme dans la psychose ou encore dans la névrose. Du coup, Freud comprend bien que la structure de l'inconscient n'est pas décrite par cette architecture qui la rend présentable. Au contraire, il voit bien qu'il y a une expression d'une énergie sexuelle. Et Freud va donc petit à petit faire émerger cette sexualité qui est présente chez l'humain, en présentant évidemment que le sexe est présent partout. Au cours de l'enfance, la personne va apprendre à déguiser ses désirs ou encore à les refouler de manière magique dans le symptôme ou simplement dans l'art. Pour vivre, en fait, d'une manière présentable, les individus vont être obligés de faire ça. Et donc Freud va petit à petit comprendre que cette énergie, elle subit un conflit avec le réel, conflit majeur dans la famille, qu'il va appeler bien entendu le complexe d'Œdipe, car c'est ce conflit qui va contribuer à construire toute la souffrance de l'enfance.
Oui, c'est le petit garçon qui veut tuer son père pour avoir accès à sa mère. Mais en quoi ce conflit est-il formateur de la personnalité, selon Freud ?
Alors, c'est là où on sombre dans le fait que Freud reste un personnage du XXe siècle, du début du XXe siècle, de la famille, de l'État et du patriarcat. Parce qu'évidemment, Freud ne peut pas bien comprendre comment ce bouillonnement énergétique peut venir. Donc, il pense que ça ne peut être que formateur d'une personnalité, et il pense que la peur de la castration, le complexe d'Œdipe, va induire le refoulement, n'est en fait pas une affaire simplement de sentiments ou de fantasmes de meurtre, mais qu'il est une angoisse constitutive qui va obliger le petit garçon à orienter sa sexualité vers quelqu'un d'autre que sa mère. En quelque sorte, c'est déjà la base de ce que Lévi-Strauss va construire avec le structuralisme. Évidemment, pour Freud, cette sexualité féminine n'est vue que par ce filtre patriarcal, et donc la femme est en théorie la réceptrice du désir de l'homme. Mais il n'empêche qu'il a bien conscience que la sexualité est au cœur du problème de la conscience ou de l'inconscient et qu'elle est à la base de la maladie mentale et de toutes les obsessions. D'ailleurs, Freud, en supportant le nazisme, va aussi petit à petit comprendre que la sexualité est à la base des idéologies.
Freud affirme que l'énergie inconsciente est d'origine sexuelle. C'est grâce à cette dénonciation qu'il entreprend la psychanalyse.
Alors oui et non. Là encore, il comprend bien que l'énergie inconsciente est d'origine sexuelle. Il comprend bien que la maladie mentale est une énergie sexuelle refoulée et culpabilisée, qui va d'ailleurs laisser des stigmates dans le corps. Mais il le fait à travers la psychanalyse, principalement pour trouver une méthode de soin qui, lui, l'arrange en tant que psychiatre, hein, pour vivre aussi, et pour chercher comment on peut réduire ces éléments-là. En cherchant toujours à réduire le bouillonnement émotionnel, même dans le corps et même dans la culpabilité, évidemment, il redonne en quelque sorte une identité mentale, mais en même temps, il exprime en quelque sorte que la société, que le monde social de son temps est finalement très bien fait, très bien pensé. Car une fois qu'il a affirmé l'aspect sexuel de l'inconscient, Freud va insister sur les mécanismes de défense de toutes les angoisses enfantines et notamment du refoulement. Et pour lui, le refoulement, qui est bien sûr un déni de la réalité, mais ce refoulement va se construire quand même à cause de l'angoisse de castration pour vivre dans le réel, ce que lui, il appelle le réel. Et c'est ça le point majeur qui va arrêter le développement des envies, mais paradoxalement, pour Freud, le refoulement est donc aussi capable de construire des personnalités sociales.
Alors, contre la maladie, la psychanalyse est un moyen de reformuler les conflits du passé.
Oui, du moins c'est ce que Freud affirme. Avec la cure psychanalytique, qui ressemble un peu à l'hypnose mais qui est faite de manière plus consciente, l'individu va constater combien ses erreurs enfantines devraient être caduques et va pouvoir petit à petit les supprimer en regardant ce qui se passe dans le réel. En parlant, la personne va réidentifier ses propres conflits qui ont été cachés, ce qu'il appelle donc inconscient, et ses conflits d'autrefois, y compris d'ailleurs des conflits qui sont fantasmés, ça Freud va comprendre que ce ne sont pas forcément des réalités, c'est là où sa théorie bute un peu. Des craintes inventées parfois. Parce que tout ça, c'est à partir de ses peurs d'enfance que l'enfant va construire ses fantasmagories et ses délires. Et ces fantasmagories et ses délires ont pour but d'apaiser l'inconscient, selon Freud.
L'inconscient est donc un refus du réel qu'on a utilisé comme enfant et qu'on recommence à utiliser comme adulte. Être névrosé, c'est masquer ses peurs, qu'on voit avec des yeux d'enfant. Alors, le refoulement, ça aide ?
Ben oui, c'est ce que dit Freud. Pour lui, évidemment, la société ne pose pas de problème. La construction sociale de son temps, bien qu'il voit arriver le nazisme, reste pour lui une société bourgeoise, traditionnelle, patriarcale, et elle correspond presque pour lui à la base même de ce que doit être la vie humaine. Par conséquent, pour lui, le refoulement est un mécanisme de défense et qui permet juste de construire contre le bouillonnement émotionnel des principes de réalité. Le problème, c'est que ce mécanisme de défense qu'est le refoulement engendre aussi une souffrance et que parfois, cette souffrance, on n'arrive pas à la dépasser, à la gérer individuellement. Donc, du point de vue psychiatrique, ça va permettre à Freud de concevoir qu'il y a du normal et du pathologique. Car la négation du réel pose un problème philosophique, mais ne pose pas pour lui un autre problème que celui de permettre aux individus de vivre ou de ne pas vivre. Si l'individu souffre, il va devenir malade. S'il arrive à l'accepter, il devient social. Alors, Freud va pas bien comprendre, évidemment, une partie des choses, parce que ça pose un véritable problème qui est beaucoup plus loin que le problème psychiatrique, un vrai problème philosophique. Sartre, notamment, va révéler ainsi que si l'inconscient est une simple négation, Il se reconnaît en tant que négation. Et donc, s'il peut se découvrir, pour Sartre, ce déni du refoulement, c'est simplement ce que Sartre va appeler de la mauvaise foi. En fait, on ne veut pas savoir ce qui nous dérange. Et ça, c'est pas nouveau, on retrouve ça dans plein d'idéologies où on n'a pas envie de réfléchir aux choses et on n'a pas envie de ce que les choses nous dérangent. Car ce qui nous dérange est toujours plein d'émotions. Aussi, pour Sartre, la psychanalyse n'est pas un exercice médical, mais un simple travail intellectuel pour avoir plus de lucidité. Pour Freud, c'est évidemment important de combattre ces terreurs enfantines, car il les assimile comme des terreurs infantiles. En gros, il faut que l'individu assimile l'inconscient et le refoulement pour pouvoir passer à autre chose. Pour Sartre, l'inconscient et le refoulement, ce sont les deux choses qui vont dire que Freud demande aux personnes de retrouver une bonne foi, une sincérité. Et donc, finalement, le travail de Freud, pour Sartre, ne serait, la psychanalyse ne serait qu'une tentative pour retrouver une bonne foi. Mais ça ouvre aussi toute la dimension idéologique de l'inconscient. Parce que du coup, si c'est de la mauvaise foi des hommes, c'est cette mauvaise foi qui les conduit à choisir des solutions magiques ou des solutions délirantes.
Oui, mais Freud aussi disait que le refoulement possède un côté idéologique.
Oui et non, enfin, c'est pas tout à fait ça. Pour Freud, c'est la religion qui idéologise le refoulement et qui va légitimer la culpabilité. C'est donc plutôt un problème de culpabilité. La religion va établir une sorte d'Œdipe fantasmatique et va soumettre les humains à un père fictif, Dieu. Pour Freud, le délire religieux reste donc une obéissance aveugle au père, mais elle permet la civilisation malgré tout. C'est ensuite seulement pour lui que les idéologies et le fascisme vont utiliser ce type de délire de soumission au père fictif pour fabriquer des sociétés qui vont être de type dictatorial. Freud conçoit donc la civilisation comme une unité sociale. Pour lui, comme pour beaucoup de gens au début du siècle, du XXe siècle, la civilisation est en quelque sorte universelle. Même si son histoire contient des tourments et des dictatures, être civilisé pour Freud, c'est d'abord être raisonnable dans le sens de la bourgeoisie libérale. Et pour lui, l'inconscient est quand même une barbarie qu'il faut gérer. Freud ne remet donc pas en cause la société patriarcale. C'est pour ça qu'il a inspiré une partie des ethnologues sur le thème de la horde primitive et de l'échange des femmes. Nous en avons déjà parlé en fait, dans l'émission sur le matriarcat. Cette vision patriarcale va d'ailleurs embarrasser la psychanalyse, l'ethnologie et beaucoup d'autres sciences.
Il y aura d'ailleurs des femmes psychanalystes qui vont se demander où est passée la femme dans la théorie de Freud.
Oui, on peut penser notamment à des gens comme Lou Sirigaray, qui va démontrer les aspects les plus sexistes de la psychanalyse. Mais il y avait déjà Lou Andreas Salomé, rappelez-vous, qui va devenir psychanalyste elle aussi, et Marie Bonaparte qui vont exposer ce problème. Néanmoins, la fameuse révolution freudienne a déjà sombré sous la bourgeoisie avec l'invention de la cure psychanalytique. Il y aurait donc une sorte de sexualité normale, qui serait génitale. Et paradoxalement, elle est associée à la reproduction, alors que Freud avait découvert que c'était autre chose. Un peu comme s'il fallait sacrifié aux doctrines dominantes de la biologie d'époque. Tout le reste de ce que Freud appelait la sexualité va être réduit à des perversions ou à des préliminaires. L'énergie sexuelle va rester biologiquement reproductrice et le refoulement, il va rester bourgeois et bien libéral.
Regarde là-bas, le gros méchant Condé.
Il y avait trois petits piopons avec des jolis blousons.
Le premier petit capon faisait de jolies chansons. Et le samedi soir, avec sa guitare, il jouait le rock'n'roll.
Je vais t'attraper, je suis le gros, le méchant Condé.
Qui a peur du méchant Pasquale? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant Pasquale?
Vous attrapez!
Yeah.
Je vais tout casser.
Et alors?
Je vais verbaliser.
Et alors? Et alors? Et alors? Et alors?
Il y avait trois petits quepons à la queue en tire-bouchon, avec des doigts bien comme des ceintures des pieds, des cheveux décolorés. On se met leur adversaire, ce qu'ils disaient en courant d'air, et tous les sachants pas du tout.
Ludwig van 88 nous interprétait les trois petits quepons qui ont peur du loup, de leur inconscient et de la société. Alors, nous sommes toujours en train d'éplucher comment est née la théorie psychanalytique et notamment la notion de libido chez Freud, puis chez Reich. Nous venons de voir que le refoulement sexuel entraîne les névroses selon Freud.
Eh oui! Mais si l'inconscient résulte des pulsions refoulées, l'analyse freudienne introduit cependant une sexualité qui reste génitale et normative, hein, bref, patriarcale, quoi.
Oui. Donc la psychanalyse disait qu'il fallait déjouer les pièges du refoulement, mais cela dans le cadre d'une sexualité bourgeoise et patriarcale. Hein.
Freud, en fait, va petit à petit quand même dépasser le stade de la première topique, qui était donc purement architecturale, pour arriver à une organisation un peu différente. Alors, il va parler, malgré tout, de la manière dont cette sexualité, pour lui, ce bouillonnement sexuel qui reste hardi et qui reste difficile à bien gérer, va passer par différents stades. Le stade oral, puis le stade anal, pour enfin culminer, bien sûr, dans le stade génital. Tout ça, ça va décrire le développement de l'enfant vers l'adulte. Et si la sexualité y est dominante, elle est comprise quand même comme une énergie qui va, à travers ces différentes phases, présenter de manière très linéaire comme participant d'une structuration raisonnable de la personne. Bref, pratiquer une autre sexualité, c'est déjà être en quelque sorte névrosé. Et même les maladies mentales, pour Freud, sont aussi liées à de mauvaises manifestations d'une sexualité débridée. Alors c'est évidemment étonnant quand on pense que c'est lui qui a posé justement la sexualité comme étant la force vitale. On en vient quasiment avec Freud à justifier le refoulement. Alors que pourtant c'est lui qui le premier a montré que l'inconscient, aussi bien que l'imagination que le délire, était une énergie sexuelle.
C'est que William Reich, c'est là qu'il intervient.
Tout à fait. Alors il faut bien comprendre que cette énergie sexuelle que Freud va maintenant baptiser la libido, va trouver en William Reich quelque chose de tout à fait nouveau. William Reich, qui est né en 1897 et qui va mourir en 1957, est un jeune médecin par rapport à Freud. Donc il va rejoindre les psychanalystes à l'âge de 22 ans. Et c'est lui qui va essayer de replacer du sens biologique dans la sexualité et dans le psychisme.
C'est avec Reich que la libido va trouver sa vraie nature.
En effet, car si Freud va rester un explorateur des mécanismes de la sexualité dans une société qu'il juge parfaite, il va quand même vite découvrir les effets psychopathologiques des refoulements et des désirs sexuels. Freud dit « La sexualité, c'est libérer de l'impératif de la reproduction pour servir celui de la jouissance. » Donc on voit qu'avec Freud, on a déjà des bases. William Reich, lui, va reconnaître beaucoup plus. La sexualité est pour lui le fondement de l'énergie biopsychologique de tous les êtres humains. Pour lui, c'est la question centrale. La névrose est bien une énergie refoulée. Et bien que Reich soit parfaitement admiratif de Freud, il découvre très vite que si le refoulement est à la base des pathologies, eh bien c'est simple, il faut lutter contre le refoulement et en comprendre la nature. Alors que Freud en avait fait du refoulement un mécanisme de défense, Reich est d'abord frappé par l'origine socio-économique des maladies, et notamment des malades mentaux. Notamment, il va découvrir chez les femmes qu'il y a plus de malades, les hystériques notamment, et il va former un groupe de médecins qui va donner des soins gratuits à tous ces gens démunis qui apparaissent généralement comme des malades mentaux. Cet engagement va le conduire à revisiter totalement cette sensation de la psychologie et de la psychiatrie de son temps. Et bien entendu, en 1929, il va aller voir la Russie révolutionnaire en songeant évidemment qu'il peut y faire là plein de choses. Dans l'enthousiasme, il va adhérer au Parti communiste allemand à Berlin. Et bien entendu, il en sera exclu par la suite, car Reich est surtout connu évidemment pour ses travaux de sexologie. Mais alors, quel lien va-t-on réussir à comprendre qu'il a avec la psychanalyse ? Car en fait, c'est à cause de la psychanalyse qu'il s'intéresse à la sexologie.
Finalement, il part des bases freudiennes pour comprendre le sexe.
Oui, l'idée de Reich est toute simple. Si les névroses découlent de l'énergie sexuelle refoulée, il faut lutter contre le refoulement. Il va donc s'attaquer à la répression sexuelle, que cette répression soit idéologique ou médicale. C'est ça le sens de son premier livre qui s'appelle « La fonction de l'orgasme », écrit en 1927, dans lequel Reich va déduire que l'expression sexuelle non corrompue par le refoulement est nécessaire en tant que pulsion vitale. Il faut bien voir que Reich reste très biologique de ce point de vue. Pour Reich, la libido est une fonction biologique et le désir doit être réalisé dans la satisfaction.
Il écrit dans son fameux livre « La fonction de l'orgasme », dans lequel il insiste sur le rôle antinévrotique de l'orgasme sexuel. En fait, il faut réaliser ses désirs.
Oui, Freud a étudié la sexualité, mais Freud n'a jamais étudié l'orgasme. Il le considérait comme un phénomène accessoire de la sexualité. D'ailleurs, la plupart des biologistes n'ont pas étudié l'orgasme. On commence juste dans les années 2010 à avoir des publications sur l'orgasme. Il y en a eu quelques autres avant, mais c'est très rare. Et chez les animaux, quasiment, on pourrait considérer qu'aucun animal a des orgasmes si on regardait les biologistes. Mais le plaisir sexuel et l'orgasme ont été oubliés parce qu'évidemment, ça ne colle pas avec la production biologique habituelle. On peut être frappé de voir combien toutes les analyses des comportements sexuels des animaux vont parler de tout, de la longueur des plumes, de la couleur des pattes, mais quasiment jamais du plaisir sexuel. Alors que le plaisir sexuel, évidemment, a un rôle dans la suite et dans le succès de reproduction. Et même chez l'homme, l'orgasme sexuel devrait être considéré autrement. Il était considéré comme la fin de l'activité sexuelle. Avec Reich, l'orgasme ne va pas être la fin ou un à côté de la sexualité, mais il va être compris comme une décharge à la fois psychique et biologique.
Du coup, Reich place la sexualité très haut dans le psychisme et l'orgasme devient un moyen de décharge psychique. Il dit même « la santé psychique dépend de la puissance orgastique ».
Là, il va carrément très loin. Il fait de l'orgasme, en effet, le fondement de toute la sexualité, le but de toute sexualité. Et Reich voit dans cette décharge orgasmique une manière de libérer l'énergie sexuelle. Il faut bien voir qu'il le pense en termes d'énergie sexuelle accumulée et qu'il faut de temps en temps exploser. Donc, en réduisant le refoulement, eh bien, ça va permettre de libérer l'énergie sexuelle, et cela aussi bien psychiquement que biologiquement. Mais l'idée de Reich va même encore au-delà. S'il part de la satisfaction sexuelle, c'est qu'il a compris comment le refoulement entraîne ce qu'il appelle une psychorigidité. Et c'est cette psychorigidité qui va conduire à la névrose. Au début, il propose juste que l'orgasme soit comme un remède naturel à la névrose. Puisque c'est le refoulement qui entraîne la névrose, se défouler sexuellement pour atteindre un plaisir, il dit un plaisir génital, un plaisir adulte, en quelque sorte, ça va réduire les peines enfantines. L'orgasme est donc conçu comme une sorte de plaisir adulte et responsable, à la manière dont la société pouvait l'imaginer. Mais progressivement, Reich va aller au-delà. Puisque le rôle biologique de l'orgasme, plus que le rôle biologique de l'orgasme, même, il va comprendre que la répression sexuelle des désirs constitue la base de la répression sociale et sociétale. Du coup, Reich conçoit que le puritanisme n'est pas un accident du capitalisme et de la marchandise. Le refoulement sexuel constitue un des fondements de la société marchande. En partant du refoulement individuel subi dans l'enfance, Reich va penser que la satisfaction sexuelle pourrait devenir la base d'une révolution des mœurs, mais aussi d'une révolution des sociétés.
Mais Freud ne sera pas du tout d'accord. Et il va se moquer de ce jeune médecin qui prétend trouver des solutions simples dans une sexualité normale.
Oui. D'ailleurs, la théorie de Freud, à l'époque, va s'éloigner au contraire de ses premiers travaux sur l'importance de la libido. Petit à petit, avec la montée du nazisme, Freud va imaginer que l'inconscient va batailler entre deux principes. Et Freud va inventer quelque chose d'abominable, la fameuse pulsion de mort, Thanatos, qui va s'opposer à la pulsion de vie, Eros, qui chercherait la satisfaction. Ainsi, pour Freud, c'est Thanatos qui expliquerait l'adhésion aveugle aux idéologies antisémites et nazies. Et comme par exemple le plaisir d'une sexualité masochiste tenterait à l'expliquer selon Freud. Thanatos est une pulsion de mort. C'est celle qui entraîne l'avidité capitaliste. Donc pour Freud, la sexualité reste ancrée dans un plaisir enfantin de réalisation des désirs immédiats, et il voit dans ce couple Thanatos-Eros en quelque sorte l'élément central de la décharge énergétique. Mais en inventant Thanatos, évidemment, il pense que c'est quelque chose de fondamentalement naturel. Donc il imagine bien davantage qu'il faut se sortir de la sexualité primitive qui doit développer des formes présentables. Donc pour Freud, la société est une œuvre de culture qui permet de s'extirper du magma sexuel primitif. Et Freud voit donc dans la sublimation des désirs et dans l'art la possibilité d'organiser une société adulte et mature. Le sexe primaire, qu'on va se sortir de ce sexe primaire pour construire la civilisation. Mais Freud reconnaît que le fascisme et le nazisme ont quand même un fondement sexuel, qu'il considère comme une mauvaise énergie retournée contre elle-même, et c'est cette énergie qu'il appelle la pulsion de mort ou Thanatos.
Ce concept de pulsion de mort est célèbre et il a fait couler de l'encre. Il y aurait ainsi une pulsion destructrice. Qu'est-ce que c'est que cette idée de pulsion de mort ?
Ben oui, c'est un terme complexe et paradoxal. Il faut bien penser que c'est assez affolant quoi, de voir que Freud a découvert l'importance de l'énergie sexuelle et que d'un seul coup, il va dire qu'il y a une autre énergie que la sexualité, celle qui va nous conduire à la mort et à la fin de nous-mêmes. Alors ça a évidemment beaucoup de succès dans la psychanalyse parce que ça permet, avec ces deux entités, en quelque sorte, de construire des individus qui seraient raisonnablement liés à une pulsion d'un côté et à son retrait de l'autre. Alors que l'énergie sexuelle, la libido, le mot pulsion entendait une force de satisfaction, un désir qui se déchaînait dans le plaisir, c'est ce qu'on retrouve notamment avec Reich, avec Thanatos, c'est un retournement autodestructeur, un mouvement d'auto-agression, un masochisme continuel. Alors au début, Freud conçoit Thanatos comme s'il s'agissait de réduire en quelque sorte un état de tension provoqué par le refoulement. Thanatos serait juste là pour annihiler la tension, pour se retrouver dans un état d'anéantissement, un état de mort, sans avoir toutes ces maladies en soi. Mais progressivement, Freud va décrire une autre forme plus importante pour lui, ce fameux Thanatos qui va agir de manière compulsive, répétitive, en deux temps. D'une part, cette pulsion qui est morbide au départ va se retourner contre soi, on va en quelque sorte gérer la pulsion sexuelle comme une autodestruction, et elle va se diriger ensuite vers l'extérieur comme une pulsion pathologique qui permet même d'agresser les autres. Exit la sexualité.
Someone new to go through life with you, because I love you, my darling, my dearest, I love you. You're the one I want nearest me. I love you, and I hope that you love me too. Someone new to go.
to lie with you.
Buddy Holly, Because I Love You.
Nous revoilà sur 89.4, une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science sans liberté. Alors, dans notre analyse de l'apparition de la notion de libido, nous avons compris combien Reich a insisté sur le fait que la répression sexuelle est au cœur de la construction des pathologies et du monde marchand.
Oui, les deux à la fois. En fait, avec la pulsion de mort, on a vu que Freud va changer son corpus du dynamisme et du psychique, et au lieu d'une libido qui provoquerait l'ensemble des phénomènes vitaux et compulsifs, il va décrire une pulsion de mort qui serait opposée à la pulsion de vie. Attention, ça veut dire quand même qu'il reconnaît bien la sexualité comme une pulsion de vie. Mais c'est cette opposition qui, pour lui, expliquerait la jouissance trouvée dans le sadisme et dans le masochisme sexuel, et socialement, bien sûr, dans le nazisme ou dans les fascismes, qui sont en quelque sorte ses continuités.
Donc, cette pulsion de mort serait aussi importante que la pulsion de vie dans le psychisme, et toute l'énergie résulte de l'opposition entre ces deux forces. Et qu'est-ce que Reich en pense ?
Alors évidemment, Reich ne va pas du tout être d'accord avec cette idée de Thanatos. Il pense que Thanatos ne peut pas exister. Et il veut donc redonner à la libido son fondement d'énergie sexuelle. Reich va ainsi récuser l'hypothèse d'une idéalisation qui est la projection de l'idéal du moi sur le partenaire et qui pour Freud est l'élément clé du désir. Pour Reich, l'envers de la société et de la civilisation, ce sont les meurtres sexuels, l'expansion de l'avidité, l'expansion du refoulement. La société s'oppose en elle-même au désir orgastique, notamment parce qu'on voit bien qu'il est dans un patriarcat qu'il a du mal à bien décrire, afin de vouer l'humain au travail capitaliste, qui est une compulsion, et de réduire au salariat les humains au profit des exploiteurs. Pour Reich, le fascisme est donc d'abord une misère sexuelle, une maladie analogue à la peste, il appellera ça la peste émotionnelle, un refoulement que les refoulés veulent imposer aux autres.
Alors pour Reich, la question essentielle est donc une critique de la répression sexuelle qui est en cause dans la formation des maladies mentales aussi bien que dans les oppressions sociales. Et la société capitaliste aussi dépend de ce refoulement.
Oui, pour Reich, le capitalisme impose fondamentalement des objectifs qui sont antisexuels, car il investit de ses compensations pour pouvoir supporter les privations qui vont entraîner d'ailleurs l'angoisse et les pathologies. Alors tout ça, ça va expliquer pourquoi Reich sera exclu du Parti communiste, bien sûr. Pour Reich, le capitalisme va détourner l'humain de son énergie sexuelle vitale. Pour Reich, il faut donc penser l'énergie sexuelle dans la maturité de la satisfaction du désir et non pas dans la sublimation dont parle Freud. Au contraire, pour Reich, le désir est réalisé dans une satisfaction qui va exiger l'équivalence des deux partenaires et sans nécessairement inscrire la sexualité dans une hiérarchie orale, anale, génitale, préliminaire, etc. Pour lui, la sexualité doit être libérée de la répression sexuelle au même titre que Reich va prôner l'émancipation des personnes face à l'intégrité du capitalisme.
Alors pour Reich, la question essentielle est donc une critique de la répression sexuelle qui est en cause dans la formation des maladies mentales aussi bien que dans les oppressions sociales.
Et qu'on peut reconnaître en plus dans le patriarcat, en effet. Car Reich a identifié l'importance de la répression sexuelle dans le mécanisme des névroses et dans les compulsions et donc dans toutes les errances politiques. Le mécanisme de hiérarchie ou de répression policière sont autant d'éléments au service du capitalisme, mais dont l'origine et la facilitation sont à chercher dans les individus eux-mêmes. Ce qui fait la force de la répression sociale, c'est précisément que les névrosés y adhèrent. Ils soutiennent cet édifice pathologique qui est imaginé au départ par des esprits malades. La recherche de l'émancipation sexuelle est donc pour Reich de même nature que la recherche de l'émancipation sociale. On voit bien là le lien avec les théories libertaires du début du XXe siècle. C'est pourquoi il va inventer le centre Sexpol, un centre de recherche sur les conditions contemporaines et la satisfaction sexuelle, qui va d'ailleurs réunir à l'époque plus de 100 000 adhérents. On est dans quelque chose qui est bien compris. Dans ce centre, on fait ce qu'on appelle de la sexologie politique, c'est-à-dire qu'on analyse les liens entre la répression sexuelle fondamentale et la formation du capitalisme. Reich montre que les racines puritaines de l'échange marchand sont à la base même de l'exploitation capitaliste.
Du coup, le sexe est analysé scientifiquement, même dans ses implications avec l'exploitation capitaliste. Mais comment le sexe peut-il participer à l'édifice du monde marchand ?
Alors, il faut comprendre que pour Reich, si l'énergie sexuelle doit être entièrement déchargée par l'orgasme au cours de la relation sexuelle et qu'il doit conduire au plaisir, elle est aussi possible d'être détournée. Car s'il n'y a pas de plaisir, de satisfaction du désir, l'énergie sexuelle fait une stase. C'est une sorte de reste qui va s'amonceler et croupir dans le corps. C'est cela la source des maladies. Du coup, ces maladies peuvent avoir une traduction mentale, mais donc aussi une traduction idéologique, voire même psychosomatique, car je rappelle que pour Reich, le sexe est aussi de l'organique, du biologique. Pour Reich, les frustrations sexuelles vont donc générer une adhésion au processus de répression et au refoulement sexuel qui va produire toutes les émotions réactionnaires intenses qui vont être favorisées d'ailleurs par la religion et par les États. Avec la montée du nazisme, il va encore plus développer cette notion en nommant donc peste émotionnelle tout ce qui peut conduire au délire sexiste et au délire nazi. Cette peste émotionnelle est favorisée par un corps social qui va lui-même générer de la répression sexuelle et l'oppression capitaliste.
D'ailleurs, la paranoïa de ceux qui prétendent être dirigeants est bien connue.
Oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est le caractère pathologique des dirigeants et leur paranoïa habituelle qui est évidemment présente. Et puis aussi leur compulsion du pouvoir. Hein. Reich va imaginer que ce refoulement sexuel provoque des sortes de nœuds organiques qui vont rigidifier les réactions de la personne. C'est ça qu'il appelle la cuirasse caractérielle. Il inaugure ainsi une solution individuelle qui rejoint le biologique et le social. Alors, il déclare par exemple que les hommes plus que les femmes seraient davantage victimes de cela. Pour donner la phrase exacte, c'est « Les hommes ont bien du mal à distinguer l'orgasme et la jouissance du fait du centrage de leur sexualité sur leur pénis et d'un non-abandon. » Donc pour Reich, cette incapacité à se laisser aller, à lâcher prise face au plaisir sexuel, va déterminer cette fameuse cuirasse émotionnelle.
Et en termes de personnalité rigide, il voyait en face Staline et Hitler.
Oui, c'est clair. Hein. En fait, la répression sexuelle chez les enfants est un mécanisme de base de la formation de la cuirasse caractérielle et elle a évidemment après des expressions chez l'adulte. Alors Reich a inventé l'analyse caractérielle qui se proposait de dénouer tous ces nœuds émotionnels du caractère pour favoriser l'émancipation, l'épanouissement de la personne. C'est évidemment une solution individuelle, mais il y a des aspects révolutionnaires à cette théorie qui vont se retrouver dans des nombreuses psychothérapies modernes, inspirées par cette analyse caractérielle. D'ailleurs, on va retrouver les aspects les plus novateurs dans la pratique, par exemple, de Jacques Lesage de La Haye, qui a animé le centre d'études Wilhelm Reich, car la modernité de Reich est notamment largement soulignée par cette postérité libertaire.
Oui, Jacques Lesage de La Haye est un pilier de Radio Libertaire et aussi un psychologue de renom qui s'est largement inspiré de la méthode reichienne et qui a lutté pour la libération sexuelle.
Oui, en effet, Jacques a fait rentrer Reich à l'intérieur de la psychologie française et même des institutions en développant l'analyse reichienne dans laquelle le thérapeute encourage le patient à s'exprimer émotionnellement et pas seulement d'une manière verbale mais aussi par ce qu'il appelle des acting, des actes.
D'ailleurs, le centre Sexpol sera évidemment fermé par les nazis et Reich devra s'exiler.
Oui, on va retrouver donc ces idées dans la critique de la religion que Freud avait menée et dans l'avenir d'une illusion. Mais Reich va aussi systématiser cette idée que c'est l'association des névrosés qui construit l'oppression du monde. Au contraire, la satisfaction sexuelle va entraîner un dynamisme social, évite les névroses, les maladies et les dictatures. À la condition que ce plaisir sexuel concerne la totalité du corps et la totalité des partenaires. On ne peut rien sans tous les autres. Le refoulement est ce qui conduit à la recherche du pouvoir sur les autres, à la recherche de la manipulation et de l'exploitation au contraire.
Lettre d'une jeune fille en vacances à sa mère.
Ah, vous dirais-je, maman? À quoi nous passons le temps avec mon cousin Eugène? Sachez que ce phénomène nous a, auquel nous jouons tous les deux. Il m'emmène dans le bois et me dit « Déshabille-toi ». Quand je suis nue tout entière, il me fait coucher par terre. Et de peur que je n'aie froid, il vient se coucher sur moi. Puis il me dit d'un ton doux, écarte bien tes genoux et la chose va vous faire rire. Il embrasse ma tirelire. Oh, vous conviendrez, maman, qu'il a des idées vraiment. Puis il sort, je ne sais d'où, un petit animal très doux, une espèce de rat sans pattes qu'il me donne et que je flatte. Oh, le joli petit rat, d'ailleurs il vous le montrera. Et c'est juste à ce moment que le jeu commence vraiment. Eugène prend sa petite bête et la fourre dans une cachette. Qu'il a trouvé le farceur pour vous situer mon honneur. Mais ce petit rat curieux très souvent devient furieux. Voilà qu'il sort et qu'il rentre et qu'il me court dans le ventre. Mon cousin a bien du mal à calmer son animal. Complètement essoufflé, il essaie de le rattraper. Moi, je ris à perdre haleine devant les efforts de gêne. Si vous étiez là, maman, vous ririez pareillement. Au bout de quelques instants, le petit rat sort en pleurant. Alors, Eugène qui tremblote le remet dans sa redingote. Et puis tous deux nous rentrons sagement à la maison. Mon cousin est merveilleux, il connaît des tas de jeux. Demain soir sur la carpette, il doit m'apprendre la levrette. Si vraiment c'est amusant, je vous l'apprendrai en rentrant. Voici ma chère maman, comment je passe mon temps. Vous voyez, je suis très sage, je fuis tous les bavardages et j'écoute vos leçons. Je ne parle pas aux garçons.
C'était la coquine Colette Renard et sa charmante morale. Nous avons donc discuté de la manière dont William Reich avait donné ses lettres de noblesse à la libido, l'énergie sexuelle que Freud avait identifiée. Mais il a aussi insisté sur la répression sexuelle. Mais tu disais qu'il y avait du biologique dans l'analyse caractérielle.
Alors, Reich est vraiment un personnage très différent des autres. Il conçoit parfaitement que s'il s'agit d'une énergie fondamentale, elle n'est ni dans l'esprit ni dans le corps, ça ne fait pas deux choses séparées, ça fait bien partie de l'ensemble de l'individu. Alors déjà, l'énergie sexuelle ou libido s'exprime bien à travers un ensemble de manifestations organiques. Ça, personne ne peut nier qu'il y a un fondement biologique à la sexualité. Mais Reich va découvrir combien le refoulement sexuel peut produire de rigidité caractérielle, et en cela, il va affirmer que l'énergie sexuelle est organique. Alors c'est surtout lorsqu'il va être réfugié aux États-Unis qu'il va développer cette théorie relativement simple, mais quand même très très controversée. Pour lui, la libido sera l'expression de l'énergie sexuelle, mais elle repose sur une sorte d'énergie vitale. En fait, ce lien entre l'énergie vitale et l'énergie sexuelle est évidemment facile à faire, puisqu'on constate bien que les êtres vivants ont précisément une seule existence, c'est leur reproduction. C'est-à-dire qu'on définit un être vivant par la capacité qu'il a à faire de la sexualité ou de la reproduction. Donc on comprend bien que ce lien existe. Et pour Reich, la libido sera l'expression de l'énergie sexuelle. Mais ça repose sur cette énergie vitale qui vient de l'organique et que Reich va baptiser orgone. L'orgone. Reich va ainsi renouer avec une certaine forme de vitalisme ancien, qui connaît d'ailleurs de nos jours un certain succès sous le nom, par exemple, de bioénergie, etc. il va chercher à dépister cette bioénergie, et c'est là où, à mon avis, personnel, il est très décevant. Alors qu'il était jusqu'ici le pourfendeur de la répression sexuelle en exigeant la libération des corps, il va parler d'une énergie organique vitale qui dissout le désir sexuel dans des notions beaucoup plus diffuses, cette fameuse bioénergie qui viendrait du cosmos ou de l'univers.
Bien entendu, on ne peut parler de Reich sans évoquer toute la suite qu'il a donnée à sa théorie sexuelle, avec l'invention du terme orgone et ses machines à soigner le cancer et d'autres maladies.
En effet, avec la théorie reichienne, ça va progressivement se vidanger de le monde psychique pour chercher une explication qui va être biologique au départ, mais surtout mécanique et peut-être même à la suite de tout ça, métaphysique. En renouant avec la biologie, Reich va chercher une énergie mesurable. Alors, c'est bien l'énergie sexuelle, mais comme on ne la conçoit pas très bien, il va surtout l'appeler énergie vitale. De ce point de vue, il retrouve un petit peu le fameux Eros qu'avait développé Freud. Cette sorte d'énergie vitale, cette sorte de bioénergie, va connaître beaucoup d'adeptes. Alors moi, je pense qu'il s'égare complètement là, dans une confusion avec un vitalisme archaïque qui dépasserait la sexualité. L'énergie mesurable étant essentiellement visible sous forme d'impulsions électrodermiques, Reich va chercher un équivalent biologique à l'énergie sexuelle et va les confondre avec cette activité électrodermique. Et c'est ça qu'il va appeler l'orgone. Or, l'activité électrodermique n'a rien à voir avec la sexualité, donc on voit très bien qu'on est en train de séparer des choses qui au départ étaient liées. Biologiquement, ce n'est pas très convaincant pour moi. La sexualité est une énergie biologique qui est beaucoup plus directe, même si elle ne se compare pas avec des modèles électriques ou des modèles thermodynamiques.
Dans le contexte des années 50 aux USA, on comprend que Wilhelm Reich n'ait pas réussi à exprimer tout ce qu'il faisait. Mais il est bien à l'origine de la révolution sexuelle des années 60.
Oui, en fait, pendant toute cette période des années 50, il y a quand même une grosse chape de plomb qui s'oppose à la sexualité sur le monde. Et évidemment, la reproduction est la seule chose qui est importante. Le patriarcat est dans toute sa plénitude dans nos sociétés occidentales. Mais en revanche, le nom de Reich va être effectivement associé à ce qu'on a appelé la révolution sexuelle des années 60. Son nom va rester attaché à ses volontés de libération sexuelle, mais Wilhelm Reich est avant tout un chercheur scientifique qui a mis en évidence combien la sexualité et la répression sexuelle fabriquaient les névroses de nos sociétés. Ce n'était pas un militant, il est devenu militant de la libération sexuelle parce que précisément il en a compris les limites du refoulement. Avec Reich, la sexologie est donc devenue politique. Ça, c'était déjà le cas dès les années 20. Mais elle ne s'est pas enfermée dans le cabinet du psychologue. Il faut redire combien le concept freudien de libido était déjà révolutionnaire, puisqu'il a donné les fondements de toutes les théories reichiennes. Car si le sexe est politique, on comprend que le capitalisme est lié au processus du refoulement sexuel, même si c'est évidemment assez compliqué d'en comprendre exactement le sens.
Reich et finalement l'Amérique seraient à la base de la libération sexuelle, une révolution complète vers 1960.
Alors c'est vrai que dans les années 60, il y a eu des débats sur la contraception, sur l'avortement, sur la libre sexualité. Ces débats-là existaient depuis longtemps. Mais il faut quand même comprendre que ça a beaucoup bouleversé cette chose à cette époque-là. Il faut quand même souligner l'extraordinaire falsification qui consiste à prétendre qu'il y a eu une totale révolution sexuelle à la fin des années 60. En fait, à partir de 1960, ce sont les carcans du silence qui sont tombés. Mais la libération sexuelle est venue bien avant. Elle a été construite depuis la force des idées libertaires, depuis le début du XXe siècle et même à la fin du XIXe siècle, avec les idées libertaires, après Nietzsche et avec beaucoup d'autres. Et c'est à force de lutte que les idées libertaires ont imposé l'idée que la lutte contre le patriarcat, c'était la même chose que la lutte contre la répression sexuelle, ce que certains féministes peuvent oublier de nos jours. Les actions d'émancipation sexuelle sont devenues d'individus, de groupes, mais surtout du peuple, et vont être initiées par nombre d'anarchistes libre-penseurs et par les milieux libres, ou encore, bien sûr, par des groupes comme les homosexuels et les antisexistes. Alors, il suffit de lire le rapport Kinsey en 1948, qui révèle qu'à l'époque, 95% de la population américaine ne respectait déjà plus les lois antisexuelles, et avait des pratiques sexuelles bien plus libérées, y compris d'ailleurs la sodomie, qui était pourtant interdite par la loi. Donc, si les gens étaient même disposés à le revendiquer, puisqu'ils l'avouent sans honte à Kinsey en 1948, c'est qu'évidemment, la révolution sexuelle avait déjà d'autres bases.
Mais l'analyse de Reich va au-delà de la libération sexuelle. en effectuant une vraie critique sociale.
Alors c'est ça qu'on peut vraiment qualifier de révolution sexuelle. Parce qu'en effet, c'est bien l'association entre le plaisir sexuel, le développement sexuel et l'idée qu'on pouvait changer de société, telle que les hippies par exemple ou d'autres l'ont inventé dans les années 60, qui va donner un véritable mouvement qui apparaît comme une émancipation contre la répression sexuelle. Et ça, c'est effectivement nouveau quand ça s'intègre dans une vraie critique sociale. Alors le mouvement hippie avait une critique sociale relativement faible, même s'il a existé. Freud avait déjà montré combien l'argent, par exemple, et la peur des excréments étaient associés comme objet de possession morbide. Mais c'était de la symbolique. Or, au-delà de la symbolique, la répression sexuelle était liée à la perspective de l'exploitation économique. Alors, par exemple, dans le livre de Bernard Maris et de Gilles d'Ostaler, « Capitalisme et pulsion de mort », l'exploitation marchande est étroitement liée à la manifestation de Thanatos. On retrouve du Freud. Pour Bernard Maris et Gilles d'Ostaler. Je rappelle que Bernard Maris a été tué dans les attentats de Charlie Hebdo l'an dernier. En tout cas, pour eux deux, donc, un homme ne gagne pas son temps ou sa vie à exploiter. Le temps passé à travailler est bien un temps de mort. C'est ça l'idée défendue par Maris et d'Ostaler. Cette manière de considérer cela, ça minimise malgré tout le rôle de la répression sexuelle dans l'édification de l'oppression. Car en parlant de Thanatos comme principe fondamental, j'ai l'impression qu'on masque que le corps organique est la sexualité et que le corps organique et sa sexualité sont le propre de l'humanité.
D'où l'importance d'une vraie révolution sexuelle avec une revendication révolutionnaire d'émancipation de la misère sexuelle et sociale.
Oui, alors on pourrait épiloguer longtemps, est-ce que la libération des mœurs a apporté dans les années 60 ou pas ? Une chose est certaine, on a reconnu le lien étroit qui existait entre répression sexuelle, dictature et monde marchand. La masturbation n'est plus culpabilisée et d'autres formes de sexualité sont maintenant affichées dans nos sociétés. Mais beaucoup de choses ont été ratées, car beaucoup d'autres ont été détournées dans un autre intérêt. Mais ce n'est pas dans cette émission qu'on va traiter de tous ces détournements. En revanche, on peut dire que la répression sexuelle peut maintenant être comprise comme un fléau social et on ne peut plus parler de révolution sociale sans se référer explicitement à la vie quotidienne.
On retrouve ici la critique situationniste de Raoul Vanhagen, par exemple.
En effet, si la contestation débute avec la critique du salariat, la remise en cause de la condition de salarié exigeant la contestation de la vie quotidienne, il faut évidemment aller au-delà. La misère sexuelle est donc le pendant de la misère organisée par le monde marchand, et la contestation de la misère sexuelle et de la misère salariale, c'est l'une des bases de la critique du monde marchand, de la marchandise. On trouve cette thèse chez Raoul Vanhagen, mais également dans le texte de Jean-Pierre Voyer qui s'appelait « Reich, mode d'emploi » et qui révèle le lien étroit entre vie sexuelle et lutte de classe. L'aliénation du salarié est ainsi visible, aussi bien dans la répression sexuelle, dans sa vie quotidienne, que dans l'oppression capitaliste de sa vie de travailleur au quotidien. Ce sont deux vies qui sont organisées comme deux vies séparées, on parle d'ailleurs de vie privée en quelque sorte, on ne sait pas de quoi elle est privée, alors qu'évidemment cette vie privée est politique, puisque c'est en analysant et en reconnaissant ses propres misères qu'on peut lutter contre cela. Il faut lutter contre ces illusions qui vont évidemment permettre l'émancipation. Bref, la lutte contre la répression sexuelle fait partie de la même lutte que contre toutes les autres formes de répression.
Et la lucidité n'est pas quelque chose de facile à développer.
Oui.
Donc la sexualité n'était pas ignorée dans la vie ensemble, elle n'était pas ignorée, il y a comme une sorte de régression, une anti-libération des mœurs, où chacun tait sa sexualité, parfois au nom du respect des autres. Le monde semble se réduire au couple et à la famille.
Ah oui, alors que justement, le couple et la famille sont les tenants majeurs de la répression patriarcale. Là, il y a un psychiatre d'ailleurs qui, dans les années 70, avait écrit « Mort de la famille » en expliquant combien justement cette structure familiale, cette structure du couple hétéronormé était l'élément central de la répression sexuelle. On peut retrouver ça chez Reich fondamentalement. La famille est bien ce qui va ancrer le patriarcat, c'est-à-dire la répression sexuelle. Je répète, on en a déjà parlé dans l'émission sur le matriarcat et sur le patriarcat, mais le patriarcat, son fondement, c'est d'abord la répression sexuelle. Ce n'est pas le patriarcat, ce n'est pas la phallocratie, le pouvoir des hommes. Le patriarcat, c'est un mécanisme de répression sexuelle pour reconnaître la paternité et donc reconnaître la structure familiale. Et donc, bien qu'il y ait eu du bruit autour du sexe, on a critiqué les pourfendeurs moraux qui voulaient faire taire les désirs humains, on a quand même, malgré tout, retrouvé une sorte de puritanisme social. jusqu'aux pornographes qui vont exhiber maintenant une sexualité émancipée. Alors, la pornographie a eu un rôle important dans l'émancipation des mœurs. On peut parler maintenant de préservatifs, on peut parler de godemichet, etc. Tous ces éléments-là qui ont été véhiculés par les pornographes ont permis, en quelque sorte, de faire rentrer tout ça dans la ligne des mœurs. Même si, d'un certain point de vue, évidemment, le sexe est quand même resté inscrit comme une affaire privée, comme quelque chose qui ne ferait pas partie de notre vie sociale. Alors, c'est un peu un problème, c'est un peu comme si les gens oubliaient totalement la partie essentielle de leur vie, qui est cette énergie sexuelle qu'on peut fantasmer, qu'on peut construire dans des sublimations sociales, mais qu'il faut aussi, évidemment, débarrasser de toutes les répressions qui sont fondamentales. Car trop souvent, le sexe est réduit à une affaire privée, quelque chose qui ne ferait pas du tout partie de notre vie. Nombre de gens vont vivre, par exemple, en colocation. Et en vivant en colocation, ils évacuent de la sexualité dans un non-dit perpétuel. C'est la même chose que quand on construit une famille. Dans la famille, va se jouer la dictature de la répression sexuelle, mais dans le silence. Pourtant, on ne peut pas faire l'économie de nos désirs sexuels dans la vie sociale. Il ne peut pas y avoir de révolution sans une révolution de la vie quotidienne. Ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe sans se référer explicitement à la vie quotidienne, ceux-là ont dans la bouche un cadavre, avait dit Raoul Wenegem. Le sexe libre est un fondement social et libertaire. C'est aussi ce qu'ont tenté d'explorer les communautés. La vie en communauté, c'est très différent de la colocation. Car pour vivre en communauté, il faut directement poser la question de l'activité sexuelle dans la formation des groupes humains, dans la formation des groupes sociaux, dans la formation des sociétés. Les sociétés ne sont pas fondées sur l'interdit de l'inceste, elles sont fondées sur les relations sexuelles. Même si des réponses ont souvent été partielles ou mal construites, avec une analyse de la sexualité très incomplète, qui a donné des dominations, des crises et des problèmes, il y a beaucoup de travail à refaire sur ces liens-là et sur ces choses-là. Mais il y a aussi eu des expérimentations différentes, avec les communautés par exemple, où on a construit des choses qui pouvaient faire émerger d'autres manières de penser la vie. Aujourd'hui, on peut dire que la famille et son réservoir de névrose, au moins, maintenant est éclairé. On voit ce que c'est, on voit comment ça fonctionne. Mais du coup, toute théorie qui se veut révolutionnaire doit être une théorie de la misère quotidienne, c'est-à-dire de la misère sexuelle et de la misère salariale.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole. Faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien que toute la vie elle fasse l'amour, bien que toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
C'était une complainte des filles de joie gentiment chantée par Brassens.
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Après que Freud ait évoqué la sexualité comme une énergie fondamentale de notre vie, Reich a donc entrepris une critique analytique des mécanismes et de la répression sexuelle. Ce que Freud imaginait dans le cadre d'une thérapie privée, personnelle et d'une vision très bourgeoise, Reich va le développer dans une perspective d'émancipation sociale. Que la société marchande et capitaliste, de même que les dictatures, soit directement fondée sur la répression sexuelle est aujourd'hui devenue une évidence. Au cours de son analyse, Reich a pu révéler combien la dimension sexuelle et la satisfaction des désirs comportaient une dimension révolutionnaire. Cette dimension biologique, psychique et sociale du sexe n'est désormais plus remise en cause par personne. Nous sommes obligés de la reconnaître et nous pouvons désormais revendiquer la question sexuelle comme partie intégrante de la question sociale et imaginer ce qu'a de révolutionnaire la critique de la misère. Alors, forcément, il y a bien des réactionnaires pour parler de la dérive de la sexualité d'aujourd'hui et de chercher des normes nouvelles. Ceux-là même se veulent les chantres de la beauté de l'amour et pourtant refusent l'amour aux autres, qu'ils soient libres, homosexuels ou autres. On retrouve chez ces puritains qui vont prétendre réprimer la sexualité des femmes des gens qui vont brimer l'orientation sexuelle de toutes les personnes. L'objectif de ces sectes religieuses est d'imposer des manières normatives, plus ou moins fondées sur une hypothèse de naturel des comportements humains. Pourtant, ce ne sont que des obscurantistes, chez qui la famille est une institution sacrée qu'ils vont concevoir d'une manière stéréotypée, hétéronormée et bien sûr patriarcale. Car ils sont accompagnés par des correspondants modernes qui, au nom du féminisme stalinien, peuvent réclamer que les désirs soient culpabilisés et enfermés. Cela exige encore un asservissement des corps, directement inspiré de leurs fantasmes conservateurs. Cherchant à organiser la confusion sociale, certains réussissent à présenter leur activité répressive presque comme des actes de libération. Nous mettrons tous ces intégrismes dans les poubelles de l'histoire. Car il faut le répéter, un être vivant n'existe qu'en cela qu'il se transforme. Un être vivant n'existe qu'en cela qu'il évolue. Et qu'en cela qu'il est un être sexuel. Tous les eucaryotes sont des êtres sexuels, et la sexualité est la plus forte et la plus belle des énergies du vivant. L'exigence d'une émancipation sexuelle ne peut alors être limitée à la vie privée ou au comportement personnel. Ce n'est pas simplement une bonne énergie que nous allons chercher, non. La revendication de la libération sexuelle devient la clé d'une révolution sociale dont l'objectif, ouvertement déclaré, est la remise en question radicale de tous les fondements de cette société marchande et patriarcale. Les deux sont liés. Ici est contestée l'autorité autoproclamée des prêtres, de la famille, des patrons et des États. Bien entendu, le monde marchand nous propose de remplacer notre revendication d'une satisfaction immédiate de nos désirs par la seule satisfaction de pseudo-désirs immédiats. Mais nous ne tombons pas dans le piège, nous ne tomberons pas dans cette misère. Aujourd'hui, exiger de vivre une vie sans temps mort est devenu notre plus belle revendication sociale, notre plus belle revendication libertaire.
Belle conclusion, ma foi. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou encore sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté sur Freud et Reich, animée par Thierry Laudet avec la complicité de Camille, Siona et Monique à Paris. La musique d'introduction est Eddie Shaim Shahidi et nous allons conclure sur Bella Ciao, motivée.